Deuxième partie de ce débat, nous allons maintenant discuter de projets qui ont fonctionné pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté grâce à la participation directe des personnes concernées. J'accueille pour cette deuxième partie Junko Takadi, spécialiste des droits de l'homme au Haut Commissariat aux droits de l'homme, Bertrand Fouché et Ali Mazagar du projet Territoire Zéro Chômeur à Lyon et Cathy Lowe, volontaire permanente d'ATD Quart-Monde. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter une nouvelle fois Philippe Alston, le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, insiste sur l'importance de bannir une fois pour toutes les politiques de charité si on veut lutter efficacement contre la pauvreté.
Je pense que nous devons accepter que même la croissance économique va bénéficier par les mesures d'améliorer la situation des pauvres. Ce n'est pas simplement une question de donner les ressources comme, comment dit-on, charité aux pauvres, mais c'est dans les intérêts de toute la communauté, en fait. Ça serait le défi.
Junko Takadi, vous travaillez en étroite coopération avec Philippe Alston, vous participez à ses missions sur le terrain. Le rapporteur spécial explique qu'il faut mettre fin au système de la charité pour lutter contre la pauvreté. Est-ce que quand vous allez dans les missions, est-ce que vous sentez cette nouvelle approche? Est-ce que les États mettent en pratique ce conseil?
Thank you. I'm going to be the linguistic minority here and speak in English if that's all right. Basically, I think, you know, what we have seen is that it's very difficult to change that approach overnight. And in one of the countries that we have visited, there was a large number of charity organizations providing like important services to the poor. And basically they have, you know, kind of worked in cooperation with the government, but they're not part of the government. And I think the problem with the, you know, charitable approach is that it basically like doesn't allow us to address the structural causes of poverty or to address accountability when the rights are not fulfilled. So I think what we would propose is that we strengthen the recognition of the rights, such as economic and social rights, and we have institutions that actually enforce them and to address like when these rights are not fulfilled.
Et concrètement, est-ce que vous avez des exemples justement ou de mauvaises pratiques où on fait ce qu'il ne faut pas faire justement dans ce dossier de la pauvreté pour prendre en charge justement pour lutter contre la pauvreté?
Sorry.
Est-ce que vous avez des exemples pratiques?
Example to address this. I guess one of the examples, and this is one of the measures that, you know, like many countries have adopted, is the cash transfer programs. And there are some like conditional ones and unconditional ones. There are like means tested programs, meaning that basically they try to identify the most vulnerable households or like poorest households which deserve to have these cash benefits. And we have seen that in quite a few countries which have implemented these means tested programs. But what we see as a problem is that often like these programs can result in exclusion areas. So it's very difficult to identify with accuracy the poorest people, the most deserving people. But what we would argue for is a universalist approach based on the recognition of the right to social protection. And this is an approach taken by the International Labour Organization, for instance, through the Social Protection Floors Recommendation 2012. And this is based on the right to social protection, which is based on a universalist notion, and it entitles people to minimum guarantees of income security. So this is the type of approach that we would like to see in many countries.
Alors peut-être justement une bonne approche dont va nous parler Cathy Lowe. Vous êtes volontaire permanente pour ATD Quart-Monde et vous allez nous présenter un projet que vous avez développé à Madagascar. On devrait voir quelques images sur l'écran, je pense. Est-ce que vous pourriez expliquer ce projet en quelques mots?
Oui, donc je vais vous parler d'un projet pilote de formation à l'informatique. C'est un projet qui était destiné à des jeunes de 15 à 20 ans, de familles issues de la grande pauvreté, et ces jeunes avaient moins de 3 ans de scolarité.
Alors ce qui est intéressant, c'est que les personnes bénéficiaires ont participé directement à l'élaboration de ce projet.
Oui, alors les jeunes ont été vraiment acteurs du projet. Pour nous, ils sont partenaires. Les personnes qui vivent en situation de pauvreté, c'est elles les premières qui finalement luttent au quotidien pour avoir la tête haute, pour faire manger leurs enfants. Donc évidemment, c'est nous les partenaires. Mais voilà, ils sont vraiment acteurs du projet. Et dans ce projet-là en particulier, c'était vraiment une aspiration des jeunes de pouvoir connaître l'ordinateur. Ils n'ont pas accès. Et les nouvelles technologies. Donc on est parti de leur aspiration, en fait.
Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.
Oui, dès la conception du projet, en effet, le secteur privé a été associé. De toute façon, contre la lutte contre la pauvreté, je pense qu'il faut associer tout le monde, l'État, les entreprises, voilà. Dans ce cas-là, c'était des entreprises de télécommunications qui ont été associées au projet. Et donc, des employés sont venus former les jeunes à l'informatique, aux nouvelles technologies. Ils ont proposé des stages en entreprise aux jeunes. Et les employés ont eu l'idée eux-mêmes, au cours du projet, de parrainer un jeune dans sa recherche de travail.
Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont trouvé du travail. Comment ça se passe pour eux aujourd'hui ?
Alors, je ne peux pas vous dire que ces jeunes ont trouvé du travail, tous, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont allés au bout de la formation et quand même, je voudrais revenir sur l'importance de tout faire, tout mettre en œuvre pour que ces jeunes aillent au bout d'une formation. Nous, on parle de pédagogie du non-abandon. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que les jeunes ne lâchent pas en cours de route ? Et ça demande de l'engagement, ça demande de la créativité. Dans ce projet, en l'occurrence, le choix de la pédagogie était vraiment très important. Quoi créer, comment enseigner pour que les jeunes qui ont le plus de difficultés ne soient pas laissés à côté. Par exemple, la valorisation aussi était très importante quand on a honte, quand les jeunes là travaillent énormément, ils travaillent la nuit, ils se forment la journée. Donc comment on valorise tout ça ? Une autre chose qui était vraiment importante, c'était aussi les visites régulières aux familles. Ça aussi, ça permet que le jeune n'abandonne pas. Quand un jeune ne vient pas à un cours, comment on va le voir ? Comment on parle avec lui ? Qu'on trouve une solution ensemble pour comprendre pourquoi il n'est pas venu à ce cours. Et puis, un autre aspect qui est quand même important pour permettre aux jeunes de ne pas abandonner, c'est aussi d'adapter le projet. Au cours du projet, par exemple, des bourses ont été données à ces jeunes-là qui ont vraiment été réfléchies pour leur permettre de pouvoir continuer à travailler et en même temps étudier. Mais aussi, on parle d'une jeune qui est tombée enceinte et qui voulait continuer à tout prix ce projet. Et on lui a permis, après un mois, de revenir avec son bébé et mettre le berceau à côté de l'ordinateur. Donc voilà, tout ça contribue aussi au fait que les jeunes n'abandonnent pas la formation. Et c'est vraiment important.
Voilà. Alors, on va évoquer maintenant un autre projet, un peu plus près d'ici, à Lyon. C'est le projet Territoire Zéro Chômeur, où là aussi, il y a un grand partenariat secteur public, secteur privé. Alors, Bertrand Fouché, vous êtes patron d'une entreprise un peu particulière. Son nom, c'est Émergent. Il s'agit d'une entreprise à but d'emploi. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est cette entreprise ?
Alors, cette entreprise, elle est née il y a 18 mois. Elle est au service d'une utopie, une utopie réaliste, puisqu'elle se concrétise, qui a été porté par des dizaines d'années de plaidoyer, notamment de la part d'ATD Quart-Monde, et qui a été transposé dans une loi d'expérimentation en France en 2016, et qui vise en fait à expérimenter une nouvelle méthode d'éradication du chômage de longue durée à partir des territoires. Donc nous sommes 10 territoires en France à tenter l'expérience. Éradiquer le chômage de longue durée, c'est une ambition. Sur un quartier comme celui sur lequel on opère, c'est 400 à 500 personnes qui sont aujourd'hui privées d'emploi pour 3500 habitants. Donc c'est un taux de chômage réel de plus de 30%. Bien au-delà des statistiques officielles de tous les acteurs qui ne référencent qu'une partie en fait, des personnes qui souhaiteraient travailler. Donc le principe est assez simple, c'est qu'on repère que le chômage est un énorme gâchis de compétences. La collectivité se prive de talents. par le chômage. Le deuxième point fondamental, c'est que quand on vit et regarde un territoire petit, nous c'est quelques centaines de mètres carrés en fait, hein, 3500 habitants, c'est une maille humaine on va dire, on repère énormément de besoins qui sont non couverts et exprimés de la part des habitants ou même des entreprises. Et puis le troisième constat, c'est sur l'aspect monétaire et financier des choses, c'est que de l'argent, il y en a, puisque rien qu'en France, le chômage de longue durée coûte 40 milliards d'euros par an, qui ne produit que des effets négatifs. Donc l'idée, c'est de mobiliser ces fonds, qui représentent à peu près 18 à 20 000 euros par personne privée d'emploi et par an, pour créer des emplois au profit de chômeurs de longue durée, dans les quartiers, et utiliser et valoriser leurs compétences pour produire des services qui sont utiles à tous. Donc concrètement, sur notre quartier, ça a pris la forme d'une entreprise qui s'appelle Emergent, née en mars 2017, qui compte aujourd'hui plus de 60 salariés, 85-90 à la fin de l'année, et qui produit une vingtaine d'activités, qui fait du compostage, de la collecte et du compostage de biodéchets pour les restaurants collectifs, de la blanchisserie professionnelle pour des TPE, de la retouche couture pour les habitants, du coaching scolaire, tout ça construit à partir des compétences des ex-demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui nos salariés de plein droit, tous en contrat à durée indéterminée, ce qui est très important pour concrétiser tous les droits qui vont avec le CDI dans un contexte comme la France où le CDI permet beaucoup d'accéder à beaucoup d'autres droits.
Et concrètement, pour les personnes c'est des personnes qui viennent postuler chez vous, comment ça se passe pour les personnes en situation de chômage qui veulent travailler dans votre entreprise?
Alors le principe de l'expérimentation, c'est la non-sélectivité. À partir du moment où on habite le quartier et qu'on est privé d'emploi depuis au moins un an, on vient concrétiser le droit à l'emploi. Donc formellement, l'entreprise, elle recrute sans aucune sélection, dans l'ordre d'arrivée, après une communication très intense en fait, hein, sur le quartier qui prend des formes variées, notamment des portes ouvertes au pied des immeubles. L'idée, c'est de ne laisser personne au bord de la route.
Alors, vous l'avez dit, le projet est actuellement en test, en phase de test. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être étendu sur l'ensemble du territoire?
Alors, vous évoquiez le plan pauvreté annoncé par le président Macron il y a quelques semaines. Ce projet-là et l'extension de cette expérimentation fait partie des mesures annoncées, probablement une cinquantaine d'autres territoire. Du point de vue des finances publiques, ce qu'on doit prouver, c'est que cette opération est à coût neutre, c'est-à-dire qu'on sait créer des emplois sans qu'on dépense plus. Donc c'est ce qu'on essaie de prouver et on a en permanence, on nous scrute sur cet aspect-là, mais également de prouver ce que ça produit sur les territoires et surtout sur les personnes. Donc j'ai bon espoir qu'on arrive à concrétiser l'extension. On est hyper sollicité par beaucoup d'autres territoires en France, mais aussi à l'étranger, y compris on a eu des territoires suisses qui nous ont sollicités pour venir voir ce qu'on faisait. Donc je suis assez optimiste sur le fait qu'on puisse réussir à rendre cette expérimentation, à mettre cette expérimentation à l'échelle.
Je me tourne vers vous maintenant, Ali Mazagar. Vous avez participé activement à cette initiative Territoire Zéro Chômeur. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce projet?
En fait, moi, je suis issue d'une formation en informatique. Bon, après avoir fait un doctorat à l'INSA de Lyon en ingénierie informatique, je me suis tournée vers le marché du travail, dans lequel j'ai trouvé beaucoup de difficultés à m'insérer. Donc, je me suis tournée vers les agences pour l'emploi, l'équivalent en France Pôle emploi. Et là, j'ai été accueillie, mais la personne qui m'a accueillie m'a dit des phrases qui m'ont vraiment touchée, mais à vie. Elle m'a dit « Madame, vous cumulez plusieurs handicaps ». Je lui ai dit « Pardon ». Elle m'a dit « Vous avez cumulé l'handicap de votre origine et le fait de porter le foulard, le voile, comme beaucoup de personnes l'appellent en France ». Et là, franchement, j'ai été choquée. Elle m'a dit « Madame, si vous voulez trouver du travail, il faudrait sûrement envisager de l'enlever ». Franchement, cette idée, elle a traversé mon esprit. J'y ai réfléchi, mais je n'ai pas voulu accepter parce que ça ne faisait pas partie de mon choix de vie. J'ai choisi de faire partie de cette société française en étant moi-même, mais pas en étant ce que les gens veulent que je sois. Moi, je me sens épanouie en portant ce foulard pour des convictions qui sont personnelles. Chacun a ses propres convictions dans cette vie. Et donc, je n'ai pas accepté. Mes enfants étaient en bas âge. Je me suis dit, ben, écoute, Anima, cette société, tu ne trouveras pas ta place. Donc, j'ai décidé de tourner la page parce que j'ai reçu beaucoup de refus. Hein, ce n'était pas la première fois. Hein. Je suis partie aussi chercher pour une formation, parce que vu l'informatique, il faut se mettre à jour. Donc, dans une formation pareille, dans un centre de formation, j'étais à Réunion. Tout s'est bien passé, j'étais prise, mais après, à la fin de la réunion, on m'a prise de côté, dans un couloir. On m'a dit, madame, on voudrait vous parler. Je lui ai dit, oui, d'accord. Et on m'a dit, on vous accepte dans cette formation. C'était formation client-serveur, bon, c'est des termes informatiques. Mais à une condition, il faut que vous enleviez votre foulard dans cette formation. J'aurais dit, mais même dans une formation, on doit enlever le foulard. J'aurais dit, mais où on est? Bon, j'ai dit, ben, j'accepte pas. Je suis partie, on m'a rappelé chez moi, j'ai dit que non. Alors là, j'étais vraiment convaincue, j'avais aucune place dans cette société. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai une famille, j'ai des enfants, et je vais me concentrer sur ma vie de famille et l'éducation de mes enfants. Donc avec les années, les enfants ont grandi, et donc moi, je suis informaticienne certes, mais j'ai une autre passion dans ma vie, c'est enseigner les mathématiques. Donc bah, j'ai accompagné mes enfants, les copains de mes enfants, les amis, les enfants de mes amis ont fait appel à moi. Et bah, au fil des années, je me suis fait une réputation. Donc on m'a appelé, des associations ont fait appel à moi. J'ai agi en tant que bénévole, bon, ensuite des CDD précaires. Bon, mais j'ai accepté parce que c'était mon envie de donner, de transmettre mes compétences que je n'ai pas pu transmettre dans cette société. Mais je l'ai fait. Ensuite, j'ai bon, de bouche à oreille donc un organisme de formation qui venait de se créer, qui formait des BTS en alternance, a fait appel à moi donc pour enseigner l'informatique et les mathématiques. J'ai accepté. Mais malheureusement, cet organisme de formation, sa durée de vie, elle était très courte. Elle a duré 2 ans, vu la conjoncture de la crise. C'était entre 2012 et 2014. Donc on m'a dit qu'ils allaient fermer et peut-être me rappeler dans quelques mois. Les mois ont suivi, ils ne m'ont pas rappelé. Et c'est là que j'ai fait une très belle rencontre. Une amie qui m'a parlé, elle m'a dit, Alima, toi tu fais des cours, les gens t'apprécient beaucoup, tu as une bonne méthode. Et donc elle m'a dit, voilà, il y a sur le quartier, il y a une entreprise qui va ouvrir. J'ai une autre amie qui m'en a parlé, parce que cette entreprise était présente sur un stand à la fête de quartier, de mon quartier. Et suite à ça, donc, moi je pensais que c'était uniquement pour les jeunes, mais quand cette amie, lors d'une sortie ensemble, elle m'en a parlé, donc je me suis orientée vers Émergent, avant qu'Émergent soit créé. Donc j'ai eu un entretien avec notre directeur, Paul, Christine, donc ils m'ont tout de suite accepté, et moi-même déjà des années avant, je pensais à faire quelque chose pour ce quartier, en ce qui concerne le soutien scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en échec et beaucoup d'enfants qui veulent réussir, sauf qu'ils n'ont pas les bonnes personnes en face d'eux. Je ne dis pas que je suis la seule, il y a d'autres compétences, hein, je ne suis pas la seule. Donc je fais du soutien scolaire. Ce que je voulais faire, c'est très bien, c'est arrivé avec Émergent, donc ça a pu se concrétiser dès le démarrage. Donc j'ai fait partie du groupe pilote des 10 personnes, donc on a démarré le soutien scolaire, et comme je suis informaticienne, donc au sein de l'entreprise aussi, je fais des formations en informatique, et je vais m'occuper du site web d'Émergent et du compte Facebook. Donc mes compétences en informatique aussi, je sens qu'elles vont être, elles vont être sollicitées, et j'en suis très très heureuse. Voilà.
Donc ce projet a complètement changé votre vie?
Oui. Ben oui, parce que en fait, j'ai un autre regard sur, je vous dis la vérité, sur la société française. Parce que dans ce projet, je suis très heureuse parce qu'on est entouré de personnes bienveillantes. Pour moi, cette entreprise et toutes les personnes bénévoles qui y sont associées, c'est un concentré de bienveillance. Et je me dis que c'est, je sais pas, je trouve que nous avons beaucoup beaucoup de chance de rencontrer des personnes telles que Bertrand, Paul et tous les autres bénévoles. Je peux pas citer leurs prénoms. Et je pense que ce projet, il a de beaux jours devant lui. J'y crois. Et il donne beaucoup, beaucoup de bonheur et aussi d'assurance dans le cœur de mes collègues. Et on voit quand même le bout du tunnel, mais on fait partie de ces sociétés et on y participe. Et ça, c'est une très, très, très grande joie. Voilà.
Merci beaucoup, Alima, pour ce beau témoignage. Et merci à nos invités, Junko Takadi, Cathy Lo, Bertrand Fouché et vous, Alima, d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans quelques instants, dernière partie de ce débat où on va évoquer la pauvreté à Genève. Et avant ça, une nouvelle petite pause musicale avec Mancho et Mandy.